France Culture, il est 12h31. Mes excuses pour ce retard. Le journal de Camille Magnard, tout de suite, bonjour.
Bonjour. Pour incarner sa politique en matière d'immigration et d'asile, Emmanuel Macron est à Calais toute cette journée. Rencontre avec des migrants, des associations et des élus locaux, alors que le projet de loi sur le sujet suscite des critiques jusque dans les hautes sphères de la Macronie, c'est ce que l'on verra. Atmosphère tendue ce matin également à la prison de Vendin-le-Vieille dans le Pas-de-Calais. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, bloquée à l'intérieur de l'établissement par une soixantaine de surveillants. Dans cette prison, il y a une semaine, trois gardiens avaient été agressés par un détenu islamiste. Pas assez efficace, les emplois aidés vont céder la place au parcours emploi compétences. Il s'agit, nous dit-on, de rendre plus efficaces donc ces emplois subventionnés par l'État en s'appuyant sur les recettes de l'économie sociale et solidaire. Explication dans ce journal avec Anne-Laure Chouin. Il n'est pas acceptable de maintenir à son poste un patron de l'audiovisuel public condamné pour favoritisme. C'est la ministre de la Culture qui le dit. Et c'est bien le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, qui est visé. Mais le dernier mot reviendra au CSA, nous dira Éric Chavroux. À l'international, un accord pour organiser le rapatriement de 650 000 Rohingyas du Bangladesh vers la Birmanie qu'ils avaient pourtant fui. Détail dans ce journal avec Nabila Hamel. Et puis l'invité de notre séquence interview, c'est Marie Guévenoux, députée La République En Marche de l'Essonne. Avec elle, nous évoquerons ce projet de loi asile et immigration qui promet un débat parlementaire assez animé jusque dans les rangs de la majorité présidentielle.
Et dans la dernière partie de la grande table, vivons-nous dans un monde hétéronormé? Comment la sexualité influe sur notre vision du monde? Comment elle informe notre esprit? Nous allons en parler avec notre invité William Marx, qui signe un nouvel essai aux éditions de Minuit, Le Savoir Gay. Il sera avec nous à partir de 12h55.
C'est le passage obligé des migrants qui veulent se rendre en Angleterre. C'est aussi devenu un passage obligé pour nos dirigeants politiques, pour évoquer leur politique migratoire. Emmanuel Macron est à Calais toute cette journée, un déplacement qui intervient au moment où le chef d'État et son gouvernement peaufinent leur projet de loi sur l'asile et l'immigration. Ils ont rencontré ce matin des demandeurs d'asile dans un de ces nouveaux centres d'accompagnement à l'étude de leur situation administrative, Julie-Marie Lecomte.
Une visite de presque 2 heures dans cette ancienne maison de retraite qui accueille actuellement une soixantaine d'hommes, des Afghans, des Soudanais, souvent ici, au cœur du bourg de Croisy. On est à une grosse centaine de kilomètres de Calais. Je voulais venir sur place pour voir concrètement comment les choses se passent, a expliqué en arrivant le président aux habitants qui l'attendaient. Il a pris le temps, Emmanuel Macron, le temps d'écouter les craintes et les espoirs de ces hommes, les difficultés des bénévoles qui travaillent ici pour les aider. Il a visité la toute petite infirmerie, la salle où l'on donne des cours de français. Ce sont souvent des retraités qui donnent de leur temps. Je m'occupe et je rends service, confie un ancien instituteur. Emmanuel Macron opine, je vous le confirme, vous rendez service. Quand le sexagénaire déplore de ne pas pouvoir suivre longtemps ses élèves, le président de la République acquiesce, il faut réfléchir aux moyens de travailler davantage dans la durée pour mieux accueillir les réfugiés.
Julie-Marie Lecomte, et cette visite qui se fait donc dans un contexte politique bien particulier, on le dit depuis quelques semaines, cette réforme asile-immigration, elle n'est pas sans danger politiquement pour Emmanuel Macron. Des voix divergentes se font entendre dans la majorité ou dans l'entourage proche du chef de l'État. On en juge aujourd'hui encore par cette tribune publiée dans le journal Le Monde, co-signée entre autres par le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, mais aussi par l'économiste Jean Pisani-Ferry, celui-là même qui avait défini le programme du camp candidat Macron pour la dernière présidentielle. On le retrouve donc aujourd'hui parmi ceux qui dénoncent une politique migratoire, je cite, qui contredit l'humanisme prôné par le chef de l'État, en cause la circulaire Collomb qui remet en cause le principe d'accueil inconditionnel dans les centres d'hébergement d'urgence, ou également ces policiers qui arrachent leur couverture à des migrants à Calais, qui lacèrent leur toile de tente à ces mêmes migrants à Paris. Et donc ce projet de loi asile-immigration qui va renforcer, nous expliquons, les expulsions de ceux qu'on continue à qualifier de migrants économiques. Alors ça commence à faire pas mal de griefs qui sont exprimés dans des milieux de plus en plus proches du chef de l'État. On en parle tout de suite avec Marie Guévenoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous serez dans quelques minutes l'invité de notre séquence interview en duplex de l'Assemblée nationale. Vous êtes donc députée La République En Marche. Comment est-ce que vous vous sentez votre majorité sur cette question qui, on le voit, suscite des interrogations, voire même des critiques de plus en plus franches?
Alors moi, ce que je ressens à la suite des échanges que j'ai pu avoir avec mes collègues, c'est d'abord un constat difficile à faire, hein, mais que ni notre accueil, ni l'intégration des étrangers, ni la politique d'éloignement n'est efficace actuellement dans le pays. Et ce que je ressens, c'est la volonté de pouvoir faire en sorte d'améliorer ces trois champs. Un en réduisant l'instruction des demandes d'asile, le délai, mais on en reparlera. Deux en faisant en sorte que l'intégration des étrangers soit beaucoup mieux faite qu'elle ne l'est fait actuellement. Et trois, le pendant à ces deux blocs, l'éloignement des déboutés ou des étrangers en situation irrégulière dans leur pays d'origine.
Alors Marie Guévenoux, on va développer tous ces points et aussi la façon dont tout cela est reçu et mis en musique au sein de la majorité tout à l'heure, donc avec Stéphane Robert qui vous posera les questions de notre séquence interview. Et on revient à cette visite à présent du chef de l'État à Calais. Elle se poursuit cet après-midi avec des rencontres prévues avec les associations d'aide aux migrants, également avec des élus locaux du secteur de Calais. À ces derniers, Emmanuel Macron devrait redire qu'il veut aussi impliquer plus fortement la partie britannique dans la gestion du dossier Calais. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
On le sait, les migrants qui passent par Calais, eh bien, ils veulent se rendre de l'autre côté de la Manche. Emmanuel Macron et Gérard Collomb se rendront justement après-demain à Londres pour rediscuter le fameux accord du Touquet. Vous nous expliquez, Marie-Pierre, ce qu'il dit cet accord et pourquoi la France aurait aujourd'hui les moyens d'obtenir plus des Britanniques.
Il a été signé début 2003 pour une entrée en vigueur un an plus tard, quelques semaines cette signature après le démantèlement du camp de réfugiés de Sangatte. L'objectif est alors de renforcer les contrôles sur le sol français avant tout départ du continent. De fait, la frontière britannique est à Calais, où les ports et terminaux ferroviaires accueillent des agents britanniques de l'immigration et des douanes, mais cela n'a rien d'exceptionnel. Des agents français sont eux également côté britannique. La Commission nationale consultative des droits de l'homme dénonce depuis 2005 le fait que la France est devenue le bras de la politique migratoire britannique. Le protocole d'accord du Touquet prévoit ainsi notamment dans son article 7 que la France a obligation de reprendre les migrants dont la Grande-Bretagne ne voudrait pas. La marge de manœuvre ou d'appréciation française est plus que limitée. Paris tente ainsi en vain de convaincre Londres d'appliquer le droit, notamment sur le regroupement familial, quand des migrants côté français veulent rejoindre leur famille de l'autre côté de la Manche, ce qui est extrêmement difficile. Paris souhaiterait aussi que Londres accueille davantage de mineurs isolés, conformément à ses engagements. Cet accueil existe, mais au compte-gouttes, et les associations d'aide juridique déploient des trésors d'énergie pour aider les mineurs de Calais. Paris parviendra-t-il cette fois-ci à infléchir les Britanniques? Emmanuel Macron, comme son ministre de l'Intérieur, vous le rappeliez, s'y sont engagés, mais Theresa May laisse dire que l'accord, tel qu'il fonctionne actuellement, le fait de manière tout à fait satisfaisante. De même, Paris veut demander à Londres d'accroître son financement, mettant l'accent une fois de plus sur la fermeture de la frontière qu'il faudrait renforcer, plus que sur l'accueil des réfugiés. Quand les élus du Calaisis, eux, attendent une compensation financière pour préjudice économique. Là encore, la Grande-Bretagne, qui a déjà versé quelque 15 millions d'euros, juge avoir fait sa part. Rappelons que Calaisis est hérissé de barbelés et grillages, que les migrants n'ont aucun désir d'y venir, mais qu'ils veulent aller en Grande-Bretagne et passent donc par le point côtier géographiquement le plus proche. Et cet aspect-là ne transparaît guère des discours officiels martiaux sur la lutte contre les illégaux.
Marie-Pierre Véraud, merci à vous. France Culture, midi passé de 39 minutes. La visite était tardive et on la savait risquée 5 jours après l'agression de 3 surveillants par un détenu islamiste. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, est depuis ce matin à la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Elle y est et elle a d'ailleurs bien du mal à en ressortir. Une 60aine de surveillants bloquent la sortie de l'établissement. Bonjour Xavier Demagny.
Bonjour Camille.
On le sait, l'agression de jeudi dernier à Vendin-le-Vieil avait déclenché un mouvement social chez les gardiens de prison, mouvement toujours en cours. Des négociations sont prévues cet après-midi. Mais à Vendin-le-Vieil, eh bien certains apparemment n'ont pas envie d'attendre.
Oui, les surveillants ont décidé de retenir la ministre à l'intérieur de cette prison. Tant qu'ils n'obtiendront pas satisfaction, je vous propose d'écouter Christophe Misiek, premier surveillant de la prison de Vendin-le-Vieil. Il s'est exprimé il y a un peu plus d'une demi-heure.
Elle sortira pas d'ici. Elle sortira pas d'ici. On est pris vraiment pour des cons. C'est un ras-le-bol total, ça fait des années que ça dure. Aucun gouvernement nous a écoutés jusqu'à présent. Donc là, aujourd'hui, elle est chez nous. Eh ben, elle va rester chez nous un peu plus longtemps que prévu. On se met devant les portes, on est chez nous. On est OK ?
La colère des surveillants de cette prison du Pas-de-Calais au micro de Mathilde Lemaire. La garde des Sceaux a pourtant répété à plusieurs reprises aux surveillants qu'elle était là pour les écouter, pour comprendre leur malaise et travailler à des solutions. Elle ne comprend pas notre réel besoin, celui de la sécurité, disent les surveillants. Et ce matin, la ministre de la Justice a rencontré les surveillants blessés la semaine dernière. Elle leur aurait promis un avancement, une annonce qui a été très mal accueillie par les surveillants, les autres surveillants présents sur place. Elle était donc attendue pour du concret et des mesures heure précise, Nicole Belloubet est pour le moment bloquée à l'intérieur de cette prison par une soixantaine de manifestants, vous l'avez dit, prêts et surveillés par des CRS prêts à intervenir sur place. Notez qu'une autre session de négociation, vous l'avez dit Camille, doit intervenir cet après-midi à Paris. Un mot quand même, que c'est dans ce contexte qu'une nouvelle agression a eu lieu hier soir dans un centre pénitentiaire près de Mont-de-Marsan. 7 surveillants agressés à coups de poing par un détenu violent qui purge une lourde peine, suivi par ailleurs pour radicalisation. Il a visiblement refusé hier de se soumettre à une fouille.
Xavier Demagny, suivi donc de cette situation à Vendin-le-Vieil. Vous y reviendrez dans notre édition de 18h. Ma conviction, c'est que nul n'est inemployable. C'est le credo de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui précisait donc ce matin ce qu'elle veut mettre en place pour pallier la suppression de milliers d'emplois aidés. La ministre présentait en l'occurrence un rapport commandé à Jean-Marc Borello, patron très en vue de l'économie sociale et solidaire, connu pour ses initiatives en matière d'insertion de ces Français les plus éloignés de l'emploi, précaires, personnes sans qualification, adultes handicapés, qui étaient les principaux bénéficiaires, il faut bien le dire, de ces emplois aidés jugés inefficaces par l'actuel gouvernement. Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour Camille.
Inefficaces donc ces emplois subventionnés par l'État, ils étaient 310 000 l'an dernier, ils ne seront plus que 200 000 cette année. Comment est-ce que la ministre Pénicaud compte-t-elle rendre ces emplois plus efficaces en termes d'insertion sur le long terme sur le marché du travail?
Alors en les ciblant mieux et en les accompagnant d'un accès à la formation professionnelle. C'est en résumé ce qu'a annoncé ce matin Muriel Pénicaud. On rappelle que les objectifs de la mission étaient les suivants. La mission qu'elle a commandée donc à Jean-Marc Borello, sortir de la fragmentation des dispositifs d'aide, accompagner mieux vers l'emploi ceux qui en ont besoin et repenser plus globalement une politique d'inclusion. Une mission saluée par l'ensemble des acteurs de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui ont par ailleurs tous souligné qu'il aurait fallu la mener avant de supprimer, sans concertation, les emplois aidés dans le secteur associatif. Ces nouveaux emplois aidés, justement, ils seront remplacés par des parcours emploi compétences qui ne seront pas ouverts au secteur marchand. Pour éviter les effets d'aubaine, le secteur associatif, et seulement lui, pourra donc embaucher sous cet intitulé, mais seulement si l'association est habilitée par les pouvoirs publics. Cette habilitation sera donnée selon les moyens que compte mettre l'entreprise ou l'association, plutôt, pour accompagner efficacement et réinsérer dans l'emploi la personne aidée dont le contrat devra s'insérer dans un dispositif de formation professionnelle. Moins de contrats aidés, mais mieux aidés, c'est un peu la philosophie. Le tout sera financé via un nouveau programme investissement compétences, dispositif financé et géré par des fonds territorialisés. La ministre se donne 2 ans pour démontrer donc que personne n'est inemployable et en promettant que sur ce sujet, il n'y aura pas de politique du chiffre. Enfin, ce que souligne ce rapport présenté ce matin, c'est que le chantier de l'inclusion ne devrait pas se cantonner à l'emploi. C'est tout notre système économique qui devrait être rendu moins excluant, souligne Jean-Marc Borello. Et cela nécessite, selon lui, une concertation beaucoup plus large entre plusieurs ministères, avec une nécessaire réflexion sur la place dans la société de l'engagement et du bénévolat.
Anne-Laure Chouin, merci pour toutes ces précisions à présent de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. C'est dans cette dernière catégorie inacceptable que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, range l'hypothèse selon laquelle le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, se maintiendrait en fonction malgré sa condamnation hier pour favoritisme. Une peine d'un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour des manquements à la législation sur les marchés publics du temps où il était patron de l'Institut National de l'Audiovisuel. Bonjour Éric Chavroux.
Bonjour.
Depuis cette condamnation hier et l'appel interjeté par Mathieu Gallet, la question de son maintien ou non est devenue éminemment politique. Les déclarations de la ministre de tutelle de Radio France dans le journal Le Monde aujourd'hui montrent que l'exécutif est bien apparemment tranché sur le sort de notre PDG.
La déclaration de Françoise Nyssen a en effet le mérite d'être claire. Je cite « Les dirigeants d'entreprises publiques ont un devoir d'exemplarité. Un dirigeant d'entreprise publique condamné pour favoritisme, ce n'est pas une situation acceptable. » Et d'ajouter « Il appartient à l'intéressé d'en tirer les conséquences, ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel, légalement compétent. » La ministre de la Culture surprend donc ce matin par ses propos bien plus tranchants que son communiqué officiel hier soir. Elle y réaffirmait, je cite encore, son attachement au respect des règles de la commande publique et à l'exemplarité des dirigeants des établissements et des entreprises publiques. Ces exigences sont le fondement indispensable de la confiance de nos concitoyens dans l'action publique. Alors pourquoi un tel changement de ton, une condamnation politique affirmée au presque plus haut niveau dans un quotidien de référence? Peut-être justement parce que le chef de l'État serait intervenu à ce sujet, demandant un avis sans ambiguïté de la tutelle. Le précédent Agnès Sall reste dans les esprits sur le web et les réseaux sociaux. En avril 2015, la présidente de l'INA avait présenté sa démission pour ses notes de taxi exorbitantes, avant d'être exclue de la fonction publique par un décret du chef de l'État. Condamnée par la justice, elle sera réintégrée au ministère de la Culture, provoquant la colère de François Hollande. Cette affaire, elle aussi suivie de près par l'association anticorruption Anticor, avait déclenché une tempête médiatique que l'exécutif et ou le président aimeraient sûrement ne pas revivre avec Mathieu Gallet.
Alors Eric, on va tout de même préciser que c'est le CSA qui nomme les patrons de l'audiovisuel public et c'est donc lui qui seul a le pouvoir de les révoquer.
Oui, grâce à une loi qui date de fin 2013, à la condition d'une décision motivée et adoptée à la majorité. Mais l'appel hier de Mathieu Gallet est suspensif et le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui-même n'a pas su nous dire s'il devait attendre que tous les recours juridiques soient épuisés pour pouvoir prendre la main. Le CSA devrait déjà, de son aveu, aborder le sujet demain en traditionnelle session plénière. On voyait mal jusqu'ici comment ceux qui ont élu en 2014 le PDG de Radio France à l'unanimité pourraient le destituer et assumer de se désavouer. La condamnation politique très claire désormais de la rue de Valois, son signal, devrait pour le moins accélérer la réflexion du régulateur. Sauf si d'ici là, l'intéressé n'a pas lui-même décidé de s'en aller, laissant beaucoup de questions en suspens sur l'avenir de Radio France au début d'une réforme d'ampleur de l'audiovisuel public.
Merci Eric Chavroux. En bref, le chiffre du jour, 67 200 000, c'est la population française au 1er janvier 2018. L'INSEE y voit donc une croissance du nombre d'habitants de 233 000 âmes, soit plus 0,3% en un an. C'est un peu moins, en progression en tout cas, que les années précédente. Dans l'actualité internationale, un autre chiffre, 650 000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh vont être rapatriés vers la Birmanie, d'où ils avaient fui les persécutions. Le souhaitent-ils vraiment? La question n'est pas vraiment abordée dans cet accord conclu ce matin entre la Birmanie et le Bangladesh. Un accord qui précise, c'est une première, une procédure administrative et un calendrier pour ces opérations de rapatriement donc de la minorité musulmane birmane, Nabila Hamel.
Oui, alors pas de précision sur le démarrage de ce processus. En revanche, au terme de l'accord signé aujourd'hui, le Bangladesh et la Birmanie se donnent 2 ans pour régler le retour des réfugiés Rohingyas. Pratiquement comment les choses se présentent, Dhaka évoque un accord sur le document à remplir pour les Rohingyas qui voudraient rentrer en Birmanie et parle de 5 camps qui seront construits dans l'État Rakhine. 1 million de Rohingyas vivaient dans cette région de l'ouest de la Birmanie. Ils sont apatrides depuis que le pouvoir militaire leur a retiré la nationalité en 1982. Ils n'ont pas de papier d'identité, n'ont accès ni au marché du travail ni aux services publics. L'été dernier, l'armée birmane a déclenché une opération de répression que l'ONU a qualifiée d'épuration ethnique contre cette communauté après l'attaque de commissariats par des rebelles séparatistes Rohingyas. Des milliers de civils ont fui vers le Bangladesh voisin dans des conditions dramatiques. Aujourd'hui, vous le disiez, veulent-ils rentrer après la répression et les traumatismes subis, même s'ils vivent actuellement dans des camps surpeuplés et insalubres du Bangladesh, le long de la frontière avec la Birmanie? Beaucoup de Rohingyas ont déjà exprimé leur crainte de retourner sans garantie dans l'État Rakhine, où leurs villages ont été brûlés, leurs champs confisqués et leurs papiers partis en fumée. Il faut dire que l'autre difficulté aussi consistera à prouver qu'ils habitaient bien auparavant en Birmanie, puisque ce rapatriement ne se fera qu'après une procédure de vérification. Et si un porte-parole du gouvernement birman affirmait il y a quelques jours que des rapatriés pourraient demander la citoyenneté birmane, aujourd'hui, les autorités du pays restent bien silencieuses.
Nabila Hamel, merci. De la liste noire à la liste grise, 8 pays vont être retirés de la liste européenne des paradis fiscaux. Parmi eux se trouve le Panama, qui avait été l'an dernier au cœur des révélations choc des Panama Papers, selon l'ONG Oxfam, qui est en pointe dans la lutte contre l'évasion fiscale. Il y a une tendance inquiétante avec donc ces 8 paradis fiscaux retirés d'une liste constituée il y a à peine un mois. Pour la séquence interview de ce journal, nous repartons donc dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale pour y retrouver notre invitée, la députée La République En Marche de l'Essonne, Marie Guévenoux. À vos côtés, pour mener cette interview, il y a Stéphane Robert. Bonjour à vous.
Oui, bonjour. Marie Guévenoux, vous faites partie de cette petite dizaine de députés de La République En Marche qui s'investit dans ce dossier pour la préparation du projet de loi à venir. Un petit mot d'abord, peut-être sur cette tribune dont on parlait tout à l'heure, des intellectuels proches d'Emmanuel Macron, Jean Pisani-Ferry, Thierry Pêche, Lionel Zinsou, qui disent « Votre politique contredit l'humanisme que vous prenez ». Il pointe notamment la directive du 12 décembre qui incite des équipes mobiles à aller faire des contrôles dans les centres de rétention, dans les centres d'hébergement, pardon, d'urgence. Et il parle de doutes que cette politique instille. Est-ce qu'il y a des doutes qu'il faut lever selon vous ?
Les doutes, ils vont être levés au fur et à mesure que le débat va se poursuivre. On est au tout début de la présentation de la politique de réforme d'asile et d'immigration qui va être présentée par le gouvernement et par le ministre de l'Intérieur. Le groupe de députés auquel vous faisiez référence au début de votre propos, il s'est constitué avant Noël et il s'est réuni pour l'instant deux fois. Donc vous voyez qu'on est au tout début de la consultation. C'est important qu'un certain nombre de personnes fassent valoir leur point de vue, et intellectuels ou non d'ailleurs. Mais il faut aussi se garder, moi mon sentiment depuis que je m'investis sur ce sujet, c'est qu'il faut se garder de jugements hâtifs. C'est un sujet éminemment complexe, technique, très difficile. Quand on commence à entrer dedans, on se rend compte à quel point c'est même difficile de s'y retrouver, de se faire une opinion sur le fonctionnement de l'ensemble. C'est ardu, c'est dense. Et donc il faut se garder des discours très forts, quel que soit le côté d'où qu'ils s'expriment, parce que je crois que c'est ça qui a contribué aussi au manque de résultats de notre politique de façon générale, qu'elle soit sur les champs de l'accueil, de l'intégration ou de l'éloignement.
Juste avant Noël, il y avait une députée, Sonia Crimi, qui a pris la parole, c'était le 19 décembre, dans cet hémicycle à l'Assemblée, pour exprimer les mêmes craintes que expriment ces intellectuels aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des discussions et est-ce qu'il y a des craintes au sein de votre groupe La République En Marche sur cette question ?
Des craintes, je ne crois pas. Je pense qu'il y a une période d'avant Noël qui est celle où Sonia Crimi s'exprimait, qui était en effet liée à la publication d'une circulaire avec laquelle on n'avait pas pu échanger forcément avec le gouvernement. Depuis, on a beaucoup mieux compris quelle était la position du ministre de l'Intérieur. On a bien compris, et je pense que Sonia Crimi aussi, que les forces de police n'intervenaient pas, que c'était le service de l'État, que l'idée c'était d'éclaircir la situation des personnes qui étaient logées dans ces centres de façon à pouvoir les aider dans leur parcours aussi administratif. Et donc voilà, donc Sonia Crimi, elle a fait entendre sa sensibilité. Depuis, et elle la fera sans doute réentendre. Voilà, nous ce qu'on cherche à faire dans le, et ça me paraît normal, ce qu'on cherche à faire dans le groupe La République En Marche, c'est d'accompagner le gouvernement dans la recherche d'objectifs de réduction de l'instruction de la demande d'asile, parce qu'on considère que c'est pas digne et pas humain de faire attendre 14 mois en moyenne quelqu'un qui considère que sa vie est en danger, donc voilà, et que on considère que c'est pas acceptable. On souhaite l'accompagner dans sa volonté de mieux intégrer l'étranger, et on souhaite aussi que les règles de la République, à partir du moment où elles sont édictées, soient respectées et que l'éloignement soit effectivement mis en œuvre dès lors que une notification a été faite.
On parle beaucoup d'équilibre dans ce projet de loi. C'est quoi pour vous un projet de loi équilibré ?
On parle beaucoup d'équilibre de façon générale sur l'ensemble des projets de loi qui viennent en discussion à l'Assemblée nationale, parce que notre groupe politique est composé de gens issus de différentes sensibilités, de la gauche, de la droite, qui avons cru et continuons à croire et faisons en sorte que cela existe, à une recomposition politique où les anciens clivages n'ont pas donné satisfaction, les résultats n'ont pas forcément, sans aucune arrogance, on considère que les résultats n'ont pas forcément été au rendez-vous sur l'ensemble des sujets, et on considère qu'il faut réussir à faire sauter ces clivages, et donc du coup ça nous amène à avoir des positions nuancées, équilibrées, à la recherche de résultats.
Concrètement, on parle de, par exemple d'augmenter le temps de rétention à 90 jours contre 45 jours aujourd'hui. L'équilibre en compensation, ce serait quoi, par exemple, s'il faut parler d'équilibre sur ces questions-là ?
Sur l'exemple des 90 jours que vous donnez, donc en effet, c'est de passer le délai de 45 jours de rétention à 90 jours. C'est a priori prévu dans le texte. Encore une fois, ce projet de loi, on ne l'a pas, c'est a priori prévu. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est que D'abord, il faut se rendre compte de ce qui se passe ailleurs en Europe. Notre voisin allemand ou notre voisin belge, c'est 18 mois de rétention qui est possible. Pourquoi ces 18 mois de rétention existent en Allemagne ou en Belgique et pourquoi nous surtout on ne veut pas aller jusqu'à 18 mois mais on veut aller jusqu'à 90 jours, c'est parce qu'on se rend compte dans la mise en œuvre de l'éloignement dont je vous parlais que pour éloigner un étranger qui est en situation irrégulière, on doit obtenir un laissez-passer consulaire du pays dont il est originaire.
Merci beaucoup.
Et que le temps qui est nécessaire pour obtenir ce laissez-passer nécessite ces 90 jours dans certains cas.
Voilà. Marie Guévenou, merci beaucoup d'avoir été donc en duplex avec nous, l'invité de ce journal. Merci à Stéphane Robert également qui a mené cette interview et à Thomas Robin pour les moyens techniques. La météo, enfin, difficile d'échapper à la pluie cet après-midi. Elle n'épargnera que le Languedoc, Roussillon et la Provence. La Corse est en vigilance orange à cause de risques de vents violents. Les températures 6 degrés sur la Lorraine et la Picardie cet après-midi, 7 sur les frontières est du pays, 11 à 13 sur la façade ouest et jusqu'à 16 degrés autour de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Yacine Bouzard. À 18h, vous retrouverez Aurélie Kiffer.